Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse
exclusivement de la musique country
avec Charles Lemoine
et Thomas Révoy. Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Aligre FM 93.1. À ma gauche, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Salut Thomas.
Salut Charles.
Et moi-même, Charles Lemoine, superviseur musical, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le support physique que dans le dématérialisé. L'émission d'aujourd'hui est un peu spéciale, car comme l'année dernière, nous allons un peu tester les connaissances de Thomas en animation. Côté musique, ça va être un peu la surprise, comme le mois dernier. Popcorn et Banjo, la 22e, c'est sur Aligre FM 93.1. Et c'est parti.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Avant de commencer l'émission, Thomas voulait vous parler et rendre hommage à quelqu'un que tu viens de connaître le travail, j'ai l'impression.
Ouais, alors évidemment, c'est Marjane Satrapi. Comme on fait un hors-série à nouveau sur des films d'animation dirigé par Charles, je trouvais que vu que Marjane Satrapi vient de mourir, il fallait quand même prendre le temps de dire quelques mots sur son travail. Effectivement, je connaissais pas ses films, son nom et son travail, Persepolis évidemment fait partie de mon imaginaire depuis très longtemps, mais je l'avais jamais vu. Et donc je l'ai découvert hier et j'ai pris une claque, hein, sans surprise, parce que c'est un film qui vraiment mérite sa réputation. Je voulais dire que j'ai trouvé ça extrêmement beau, très très bien écrit, le travail sur les transitions est merveilleux, la musique est superbe. La finesse avec laquelle elle dit tout ce qui lui est arrivé, tout ce qu'elle dénonce et ce qu'elle ne dénonce pas aussi, c'est plein de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de finesse dans ses mots. Et je trouve que c'est une œuvre extraordinaire. J'ai pas encore vu ses films Poulet aux prunes ou The Voices, qui sont des films live. J'ai pas lu non plus Persepolis, mais je vais complètement me l'offrir. Et vraiment, je trouve que c'est le moment, pour ceux qui seraient passés à côté, de plonger dans ce film, dans son œuvre, ou de revoir son travail. Je sais pas si toi tu veux ajouter des choses, mais en tout cas, un très très grand film qui a eu le prix du jury à Cannes, une nomination à l'Oscar et 2 Césars, meilleur premier film et meilleure adaptation.
Je propose tout de suite, de commencer avec le premier sujet. Nous allons parler de Batman contre le fantôme masqué, qui date de 1993, réalisé par Eric Radomski et Bruce Timm. Donc nous allons suivre l'histoire de Batman entre son présent et son passé, où il y a une histoire d'amour, une histoire de vengeance. Et c'est bien sûr un film qui est tiré de la série animée qui date des années 90. Qui est aussi assez dingue, je trouve. Thomas, toi, quel est ton rapport avec Batman? Quel est ton rapport avec la BD, la série d'animation? Est-ce que tu regardais ça gamin, toi, déjà, ou tu découvres un peu ça maintenant?
Écoute, mon rapport à Batman, il est particulier, parce que je suis pas du tout un fan, mais j'aimerais être un fan. C'est un peu ce qui m'arrive. C'est-à-dire que j'adore le personnage, j'adore ce qu'il représente. Mais je me suis beaucoup emmerdé devant beaucoup de films de Batman. Enfin, en tout cas, ça m'a jamais emmené très loin dans ma tête. Pourtant, il me reste des bribes, effectivement, de cette série d'animation chez Warner Brothers, là, du Batman des années 90 en dessin animé, que parfois j'attrapais le matin quand je dormais chez des potes qui avaient la télé. Moi, j'avais pas le droit à la télé le matin. Et parfois, je dormais chez des potes et on allumait la télé à 7 du mat et il y avait Batman. Et j'en avais des souvenirs, tu vois. Mais je pense que mon rapport à Batman, ça s'arrête un peu là dans ce qui me faisait vraiment vibrer. Donc là, quand tu m'as demandé de regarder le long métrage qui est un petit peu accolé à cette série, enfin en tout cas avec, j'imagine, la même équipe technique derrière, J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le travail sur les perspectives. J'ai beaucoup aimé les cadrages, le générique en 3D qu'on avait vu ensemble l'autre jour, les personnages. Je trouve que pour le coup, il y a une vraie densité. Ils ont chacun quelque chose à défendre. Ils ont une. Je trouve que c'est pas tant un dessin animé pour les enfants. Même il y a des images qui font plus assez peur en fait, hein, du Joker. Qui vit dans cette espèce d'ancien musée du futur, enfin avec des automates, avec des choses un peu flippantes. Donc, et puis c'est assez sombre aussi, hein, tout simplement. Alors je sais que les puristes vont me dire que Batman c'est sombre, mais c'est vrai que moi je suis pas encore une fois un aficionado. Et vraiment, ça se passe beaucoup dans les cimetières, beaucoup dans tout un univers d'illustration qui est assez adulte et sombre. Et donc ça m'a assez étonné. Et puis, le personnage féminin est intéressant. Il y a quelques, évidemment, stéréotypes, mais je trouve qu'on ne plonge pas tout à fait. Et en fait, elle a une vraie part essentielle dans ce dessin animé. Donc ouais, ça a été une très belle découverte. C'est aussi assez rafraîchissant de voir des films qui ne durent pas très longtemps. Je crois que c'est 1h10, 1h15, ça va très vite. Et puis, il y a un vrai travail aussi. Les personnages qu'on penserait gentils, ils ont quand même tous un peu un pied dans le mal aussi, donc c'est des personnages plus gris que blanc ou noir, et je trouve ça hyper intéressant, assez mature. Donc ça me donne envie de me replonger dans la série, hein, qui est aussi disponible chez Warner Bros. Dans un super coffret, parce que je sens qu'il y a de la matière pour des trucs assez étonnants, quoi, assez puissants. Et en termes de traits, en termes de dessin, moi j'adore. Voilà, j'adore beaucoup de contraste, beaucoup de profondeur de champ dans les images. Bref, ça me plaît beaucoup. Maintenant, je te rends la parole parce que c'est toi le vrai fanat. Et je serais curieux de savoir à quel point aussi, peut-être tu peux me répondre si c'est adapté vraiment d'un comics. Enfin, si le film, enfin le dessin animé Batman et le fantôme, si ça vient d'un comic en particulier ou si c'est une histoire originale.
Oui, alors je sais pas si je suis un grand fan de Batman, mais c'est vrai que j'ai lu quelques comics, et je dirais que bien sûr c'est influencé par certaines autres BD. Je pense notamment à certainement toute la scène de course-poursuite avec la police. Je pense beaucoup à Year One de Frank Miller et Mazu Kelly. Mais sinon, c'est quand même vraiment une histoire originale, et même le personnage féminin principal qui s'appelle Andrea, qui lui en fait une création totalement originale, mais comme en fait dans la série animée a créé aussi Harley Quinn, hein, à l'époque, c'est un personnage qui n'existait pas du tout, mais au contraire de Harley Quinn qui a été beaucoup réutilisé par la suite, Andrea et le on va dire le Mask of the Phantasm, donc le fantôme masqué en français, n'a jamais ou quasiment jamais été réutilisé. On l'a vu dans certaines BD. Je me demande si il a pas été fait une fois en dessin animé aussi ailleurs, mais je crois que c'est à peu près tout, alors que dans cette espèce de long métrage d'après la série, c'est un personnage quasiment essentiel dans la construction mentale, psychique, psychologique de Batman et de Bruce Wayne en fait, puisque ce qui est très intéressant je trouve dans ce dessin animé, c'est pour ça que je voulais le montrer. C'est qu'en dehors du fait que ce soit bien sûr un film d'animation, contrairement à ceux de Tim Burton ou de Nolan, je trouve qu'il y a vraiment une part très très jolie à Bruce Wayne, justement, à l'alter ego de Batman. Là où Batman le défie, que j'ai revu récemment, en fait, on voit que Bruce Wayne est un masque, finalement, et que la vraie personnalité, c'est Batman. Dans celui-là, il est vraiment tiraillé par, l'amour de sa vie, qui est Andrea, et la promesse qu'il a faite à ses parents, et ça donne d'ailleurs une scène assez bouleversante où il est devant la tombe de ses parents et il s'excuse d'être heureux. Et la scène, je la trouve hyper forte, et comme tu disais, pour un film pour enfants, ou peut-être jeune adolescent, il y a des séquences qui sont quand même assez intenses, qui sont assez puissantes. Et après, comme tu disais, moi j'adore le côté, bien sûr c'est un peu tiré des Tim Burton, mais ce côté très Metropolis, très Fritz Lang, très Art Déco. Il y a quand même ça, une espèce de puissance dans l'image qu'on retrouve assez rarement, je trouve, dans les Batman et même dans les nouveaux dessins animés. Mais est-ce que tu pensais voir plutôt un dessin animé vraiment pour enfants? Est-ce que tu as vraiment été surpris par le ton finalement assez sérieux, Ou est-ce que tu trouves quand même, parce que comme le récit est assez ramassé, vu que ça dure effectivement une heure, tu trouves qu'il y a quand même quelques défauts dans l'écriture, quelques raccourcis ou des choses comme ça?
Non, je trouve ça bien écrit en vrai. Je trouve ça bien écrit, j'aime bien les rebondissements, il y a des petites choses que tu vois un petit peu venir, mais c'est pas méchant. Et surtout, moi, je trouve la relation entre Andrea et Bruce vraiment intéressante. Comme tu dis, j'aime beaucoup le... En fait, elle est presque un personnage plus sombre que lui, et ça, je trouve ça hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé la dernière scène aussi. Et d'ailleurs, ça m'a fait réfléchir à... Je ne vais pas spoiler, mais bon, la dernière scène, c'est un peu... une iconographie, un mythe plutôt, qui est vraiment omniprésent dans le cinéma américain, qui est le mythe du héros solitaire, quoi, en gros, hein, qui va se diviser là entre deux héros solitaires d'une certaine manière. Et vraiment, je me suis demandé, tain, mais quel est le premier film qui pose ce mythe? C'est un peu le Lonely Cowboy de Lucky Luke, quoi, et puis qui après existe dans tous les westerns, dans tous les... Donc ouais, j'ai vraiment, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le rapport entre ces deux personnages. Évidemment, tu comprends tout de suite que cette femme, elle est beaucoup plus que ce qu'elle paraît. D'ailleurs, elle est assez magnétique et tout. C'est fort, quoi. Mais le film t'emmène un peu ailleurs. Et j'aime bien le rapport à la morale qu'ont ces personnages, qui est différent. Donc ouais, non, franchement, j'ai été assez impressionné. Je te dis, j'ai envie de me replonger dans la série. Et je trouve dommage qu'elle n'existe pas dans les films, quoi. Tu sais si elle revient dans la série ou pas?
Non, justement, elle apparaît vraiment très très peu. Alors je sais qu'encore une fois, elle apparaît dans certains comics qui ont été... En fait, la série animée a été réadaptée en comics. Et donc elle apparaît dans ces comics-là. Et peut-être elle apparaît un peu ailleurs, mais je suis pas non plus un expert en Batman, donc ça se trouve, elle est apparue vraiment ailleurs, mais vraiment très sporadiquement. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et même, donc, du coup, le Mask of the Phantasm, le fantôme masqué, qui est donc une espèce de pendant méchant à Batman, vu qu'ils ont un peu les mêmes tenues, on les confond en fait dans le film. Il y a un parallèle très intéressant sur en fait comment on se construit par rapport à la vengeance, puisque bien sûr Batman se venge de la mort de ses parents en jouant au héros, et le fantôme masqué, en fait, on va voir qu'il tue des mafieux, un peu, on va dire comme un Punisher, des choses comme ça, c'est-à-dire que chez Marvel, c'est-à-dire il va pas arrêter les méchants, il va littéralement les tuer. Et donc on va comprendre petit à petit qu'il y a encore une fois une histoire de vengeance, et c'est justement ce parallèle assez fort entre jusqu'où on est prêt à aller, jusqu'où on a le droit d'aller aussi. Et il y a des thématiques qui sont assez puissantes en fait pour un film aussi court, et surtout sur le encore une fois sur Bruce Wayne, la dualité qu'il a, moi je ne l'ai quasiment jamais revu ailleurs.
Et surtout, alors j'ai pas l'impression qu'il y ait ça dans les autres, mais peut-être je dis n'importe quoi, mais on le voit vraiment saigner dans le dessin animé. Ça m'a marqué, en tout cas. C'est une image, tout d'un coup, il y a une espèce d'image assez réaliste où Batman saigne. Il est blessé, il va pas bien. Et ouais, encore une fois, tout ça, c'est des illustrations de dessins animés adultes, quoi. Et ça m'a un peu surpris. Et après, ce que tu dis sur la vengeance, c'est peut-être mais j'ai trouvé ça assez drôle et un peu décalé, mais c'est peut-être le seul point un peu noir. C'est vrai que Batman, il moralise un petit peu le fait que la vengeance, c'est pas bien. Mais bon, il a construit toute son identité autour de la vengeance. Donc, il y avait je me suis un peu dit, genre, tu te fous un peu de la gueule du monde, Coco. Mais résultat, c'est intéressant. C'est ce que je disais, c'est que c'est un super-héros qui est sombre, mais en fin de compte, soudainement, il c'est pas la personne la plus sombre du dessin animé. Donc c'est assez ambigu, assez intéressant et plutôt très riche. Et visuellement, c'est très puissant, vraiment, très beau.
Oui, et puis il y a d'ailleurs une phrase, parce que Andrea sait que Batman est Bruce Wayne, ça c'est assez vite, de toute façon le dessin animé est tellement court que... Et il y a une scène assez intéressante où en fait lui il est en Batman, il se dispute avec Andrea, parce qu'ils comprennent que... il y a une dispute qui se passe entre les deux, et Andrea a perdu ses parents, Bruce Wayne, Batman aussi, Et Batman en veut à Andrea pour une quelconque raison, et surtout le rapport qu'elle a avec son père et le pouvoir qu'avait son père sur elle. Et il dit quelque chose du genre « Arrête de te faire contrôler par tes parents ». Et Andrea répond quelque chose d'assez cinglant. Il dit « Je crois que de nous deux, c'est pas moi qui me fais contrôler par eux ». Un truc comme ça. Et il y a comme ça un rapport très puissant sur justement aussi l'héritage qu'on a et qu'on porte sur soi. Enfin, il y a des choses où ça paraît pas comme ça dans un aussi petit dessin animé pour quelque chose qui est pour les enfants, mais il y a vraiment des choses assez, assez puissantes qui se dégagent en fait, des discussions entre ces deux personnages, mais même le rapport qu'a Bruce Wayne, Batman avec Alfred. Il y a des séquences aussi très... très très joli entre les deux.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Donc passons au deuxième film que nous avons vu tout à l'heure, qui s'appelle Spine of the Night de Philippe Gellat et Morgan Gallet King, qui est sorti en 2021. Alors là, cette fois, on est plutôt dans un délire métal hurlant, film fait, on va dire, en rotoscopie, donc cette technique de dessin animé qui, en fait, on va filmer en live, on va dire, et on va dessiner par-dessus. Alors à l'époque, avec les films de Ralph Bakshi, qui a fait par exemple le dessin animé Le Seigneur des Anneaux, c'était sur pellicule, bien sûr, maintenant ça se fait en numérique. Et là, on va entrer dans une histoire d'heroic fantasy, où, on va dire, une espèce d'érudit va répandre le mal à travers les terres, et sorcière qui vient des marais va essayer de l'en empêcher à travers l'espace et le temps. Comme ça, ça paraît assez simple, mais Thomas, j'ai l'impression que tu as été un peu... j'ai l'impression que nous avons... ça a été un peu confus, on va dire, ce film. Qu'en as-tu pensé ?
Oui. Je trouve que c'est confus, j'ai l'impression que même les réalisateurs savent pas très bien ce qu'ils veulent dire, mais qu'ils acceptent parce qu'ils ont une esthétique visuelle forte, ils ont un concept qui est plutôt bien fait, ils acceptent un petit peu les zones grises et floues de leur scénario, mais clairement, là où pour moi, il y a, je vais parler un peu déjà de ce qui m'a déplu, pour moi il y a deux choses... pas problématique mais décevante dans ce film, c'est l'écriture et la mise en scène pure. Je parle pas de la direction artistique que moi j'aime vraiment bien, je parle vraiment des cadres du point de vue en fait. Je trouve que le film manque de point de vue de réalisateur fort et il manque d'une histoire dont on comprend quelque chose. Moi j'ai vraiment pas suivi grand chose. En revanche, j'en retiens une espèce d'atmosphère qui fonctionne. Visuellement, je trouve ça quand même très beau, même si encore une fois, je trouve que les cadrages manquent d'un angle. Je trouve l'univers extrêmement beau. J'aime cette espèce de faux rythme qui est un résultat de la rotoscopie. Hein. On dirait presque que la vitesse d'obturation est, enfin, le frame rate, le nombre d'images par seconde est saccadé. On dirait un petit peu. Ça bouge un peu lentement, comme si vous voyez, comment on appelle ça déjà, un peu comme de la stop motion mais animé. Et ça me plaît bien. Et puis j'aime l'univers, moi j'adore l'heroic fantasy en dessin animé, c'est des trucs qui me font rêver, les chevaliers, la magie, le gore, les châteaux, tout ça m'intéresse. Mais voilà, il manque une ligne directrice forte. Voilà, toi c'est quoi ton rapport à ce film?
Non, bah là, c'était un peu l'occasion de découvrir un film avec toi, puisque je ne l'avais pas vu non plus, et c'était... moi, j'aime vraiment beaucoup la rotoscopie, malgré le côté presque un peu vieillissant, et ce que je disais un peu en introduction, moi, j'aime beaucoup Ralph Bakshi. Il a fait un film que j'aurais pu te montrer aussi, qui s'appelle The Wizards, qui est un film d'heroic fantasy que je trouve exceptionnel, où c'est, en gros, les humains ont fait la guerre, et ils ont détruit le monde avec le nucléaire, et en fait, des millénaires plus tard... les elfes et les fées repeuplent la Terre. Donc c'est de l'heroic fantasy, mais dans notre monde à nous, qui a été détruit. Et il utilise de la rotoscopie, il l'a fait du coup, encore une fois, j'ai dit, pour beaucoup de ses autres films, en dessin animé. Et c'est un style très très particulier, et il faut accepter, on va dire, ce contrat-là esthétique. Et je sais que c'est pas forcément évident. Et je trouve que le film marche plutôt bien, surtout que c'est en numérique, donc il y a quand même un côté un tout petit peu lisse dans l'animation, je trouve quand même, mais qui marche quand même bien. Mais le problème, comme tu disais, c'est vraiment déjà le scénario qui est en fait découpé en plein de petites, on va dire, de
chapitres.
Plein de petits chapitres, ouais, plein de petites séquences. C'est parce que c'est pas vraiment des histoires courtes, c'est pas des courts-métrages qui à l'intérieur, c'est vraiment une grande histoire continue, mais très saccadée. Et donc il y a comme ça une espèce de, comme tu disais, de rythme qui marche pas complètement dans le scénario, et ça, la mise en scène en pâtit aussi. On a l'impression qu'ils ont en fait mal filmé des en live, et du coup bah ça se ressent en dessin animé, quoi. Et puis faut bien avouer que ça joue pas forcément non plus très bien, etc. Donc c'est pas un film que j'ai envie de détruire pour autant, bien sûr, parce que je trouve que c'est quand même courageux d'avoir fait ça. Je pense que c'est un film aussi qui, moi, j'en avais quasiment jamais entendu parler avant que Extra Lucide le sorte en Blu-ray. Donc c'est vraiment un tout petit film, mais je me dis c'est un peu, je mets pas ça dans la même veine que Mad God qu'on avait vu l'année dernière, mais ça fait partie de ces petits films un peu expérimentaux qui sont toujours intéressants à regarder, toujours intéressants à décortiquer aujourd'hui, parce que forcément c'est très 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 rare de sortir des sentiers battus quand on parle de dessin animé. Ça vaut, c'est tellement tellement de thunes. Vas-y.
Non, justement, je rebondis sur l'argent. C'est aussi un tout petit budget, le film. Donc, quand même, moi, il m'arrive une forme d'espoir. Parce que je trouve que, mis à part peut-être la direction d'acteur, ça se sent pas vraiment, en fait, que c'est un micro-budget. Je trouve l'univers assez généreux. Et après, pour la comparaison avec Mad God, effectivement, je la trouve hyper bien sentie. Parce que y a un truc où, quelque part... on capte rien à la narration dans les deux films, mais l'univers transcende un petit peu cette absence de scénario. Et pour le coup, dans Mad God, en revanche, je trouve qu'il y avait des moments vraiment très indigestes que j'ai pas ressentis dans ce film-là. Et au contraire, moi, je me suis un peu laissé porter. Et résultat, j'en ai un sentiment vraiment. J'ai passé un plutôt très bon moment. J'ai un peu accepté de pas comprendre grand chose et de me laisser porter par les images. Et à un moment, je t'ai dit, je trouve que ce film, il a un peu sa place dans un musée. Et pour moi, c'est pas négatif, mais c'est le côté, tu viens, il y a une projection, tu picores ce que tu veux picorer, tu t'en vas, tu reviens, tu passes 5 minutes, tu t'en vas, tu repasses une heure. Alors peut-être que les cinéastes, ils seraient affolés d'entendre ça, mais pour moi, c'est vraiment pas un reproche. C'est-à-dire, je rentre et l'univers et les images sont belles, riches, et quelque part, ça me suffit. Et j'ai pas besoin de rester pour la narration. Pour moi, la narration, elle veut rien dire dans ce film. Donc voilà, ça m'a plu. Et pour le coup, Mad God, c'était un peu la limite de Mad God qui m'a un peu tendu, où je trouve que peut-être ça aurait mieux fait de rester un court-métrage qui aurait été ultra percutant. Je ressens pas ça dans ce film-là. At the Spine of the Night. Là, pour le coup, je le ressens pas. Et je trouve que ça mériterait d'un petit peu de musique électro. Voilà, si je peux me permettre ce petit pun. Je trouve que le film The Spine of the Night avec un peu de musique électro, je sais pas, on accepte pas mal de choses avec la musique électro.
Non, bah, je pense qu'effectivement, le problème du film, c'est qu'il est aussi, malgré tout, assez classique. C'est pour ça que même si on comprend pas tout, on comprend la globalité quand même de la chose. Hein. Mais c'est vrai que c'est très très brouillon. Mais. Ça reste de, par rapport à Bad God, ça reste de l'heroic fantasy assez, assez quand même classique, assez quand même dans ce qu'on connaît bien, quoi. Et effectivement, comme tu disais, la musique n'est pas très surprenante non plus. Mais je crois que là où Mad God était vraiment effectivement très, là pour le coup, je te rejoins, où Mad God, je trouve, pourrait être dans un musée, parce que c'est tellement expérimental, tellement bizarre, que c'est le genre de truc où tu fais, bon, je suis pas sûr que... Au cinéma, c'est sûr que c'est une expérience. Et je trouve que Spine of the Night, c'est juste tellement particulier. C'est tellement dans son jus. Et tu sens que, quand même, il y a une espèce de... On sent que c'est quand même des gens assez passionnés qui ont fait ça. Donc, il y a comme ça un truc un peu bizarre qui je pense, en tout cas, se réveille en moi. Ou malgré le fait que j'ai pas non plus passé un extrêmement bon moment dans le film, je suis un peu comme toi, j'ai pas passé non plus un mauvais moment. Et même, je suis assez content... De voir toutes ces images-là, j'ai l'impression que, encore une fois, ce qui fait du bien, c'est d'avoir une espèce de souffle un peu nouveau dans notre cinéphilie, et je pense que Spine of the Night fait partie de cet émerveillement qu'on peut avoir.
Et t'as raison, il rejoint une esthétique qu'on connaît, en fait. C'est peut-être ça aussi, c'est pour ça qu'on accepte aussi d'être un peu perdu dans l'histoire. Il rejoint... tu sais, genre les chevaliers, je sais pas, moi ça me fait penser aux chevaliers Fisher Price, aux jouets, aux... Il y a un truc où on est raccroché à une forme de nostalgie de certains dessins animés qu'on regardait gamin quand on tombait dessus, et tout d'un coup c'était génial, on était au Moyen-Âge et tout. Une forme de, comme ça, de dessins animés un peu rares qui passaient de temps en temps à la télé. Et c'est vrai que résultat, il y a un attachement nostalgique à cette forme d'image mêlée à un travail qui est quand même... impressionnant visuellement, voilà, donc une belle découverte, et puis surtout la présence de Lucille Aulès dans la voix, Lucille Aulès que les enfants des années 90 connaissent parce que c'est elle qui est Xenia la guerrière, voilà, donc ça c'est sûr que ça apporte un petit, mais c'est presque un clin d'œil un peu, tu vois. Ça apporte une forme de petit plaisir, mais c'est que sa voix, moi j'aurais jamais reconnu si tu m'avais pas prévenu. Et puis je voulais faire le parallèle aussi, toi tu connais beaucoup mieux cette série animée que moi, mais tout de suite ça m'a fait penser à Primal. Primal, j'ai vu un seul épisode que tu m'as montré et j'ai trouvé ça en revanche vraiment, vraiment extra, enfin très 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 bien. Mais je trouve qu'il y a comme ça, il y a des parallèles, il y a des liens, et presque, c'est un peu dur de terminer là-dessus, mais presque In the Spine of the Night aurait pu gagner en qualité si c'était beaucoup plus proche d'un film muet comme les Primal que ce que c'est aujourd'hui, avec des dialogues, etc.
Oui, t'as complètement raison. Un peu moins bavard, parce que l'écrit, enfin même le scénario, les dialogues sont parfois pas très très bien écrits. Mais comme tu disais, effectivement, le Primal, c'est on peut clairement, on vous conseille bien sûr Spine of the Night, mais je pense que Primal, qui est une série qui est disponible sur HBO, sur Adult Swim et donc sur MyCanal aussi. Et en support physique, bien sûr, j'ai les deux Blu-ray chez moi. Mais c'est une série qui est assez exceptionnelle.
Est-ce que tu trouves qu'en termes de... Toi qui l'as plus en tête, en termes de traits, ça a quand même des similitudes avec In the Spine of the Night ou pas trop?
Non.
J'ai le souvenir qu'il s'en a un peu, mais pas trop.
Non, du tout, parce qu'en plus, il y a quelque chose... Pas complètement cartoonesque, mais de très carré, alors que là, c'est très... c'est quand même... très très réaliste entre guillemets Spine of the Night, mais c'est vrai que en tout, là où je suis d'accord, c'est que un peu plus muet, ça aurait pas fait de mal. Et avant de terminer sur le dernier sujet, un peu de musique pour vous.
Is there something you wanna say? Are you alright? Just tell me that you're okay. Are you alright? 'Cause you took off without a word. Are you alright? You flew away like a little bird. Are you alright? Is there anything I can do? Are you alright? 'Cause I need to hear from you. Are you alright? Are you sleeping through the night? Do you have some?
Écoutez Allegre FM 93.1.
Vous êtes toujours sur Popcorn et Banjo, l'émission de cinéma qui passe exclusivement de la musique country. Et nous allons terminer ce spécial animation avec un Satoshi Kon que Thomas, toi, tu avais découvert l'année dernière, puisque je t'avais montré Paprika, qui était son dernier long métrage. Et là, nous allons voir, enfin, nous avons vu plutôt Perfect Blue, qui est sorti en 1999. Alors, pour remettre un petit peu le contexte du film, donc c'est l'histoire d'une idol hein, qui se reconvertit dans le cinéma, mais on va dire un dangereux fan est bien décidé à l'en empêcher. Alors, Satoshi Kon, c'est un réalisateur moi, que j'aime énormément et vraiment, je pense, pour moi, c'est un immense réalisateur tout court. Mais toi, Thomas, maintenant que tu as vu deux films, en fait, sur les quatre qu'il a fait de sa filmographie, qu'en penses-tu ?
Moi, j'ai adoré, voilà. Vraiment, merci de me faire découvrir tout ça. Surtout que je pense que l'émission de l'année dernière sur l'animation était un peu dure pour moi. Enfin, je veux dire, j'ai découvert plein de films intéressants et tout, mais mon rapport à l'animation, il n'est pas simple. C'est un peu comme... comme quand tu rames à contre-courant dans une barque avec des rames pourries, quoi. Donc, mais là, les trois films, y compris In the Spine of the Night qu'on vient de voir, sont plutôt passés très bien. Et donc, je pense même que je commence à avoir un rapport à l'animation qui est un peu plus neuf et qui m'intéresse plus. Et pour le coup, Perfect Blue, j'ai accroché tout de suite. J'ai compris que c'était un film particulier, un film... vraiment un grand film, hein. Franchement un très très grand film. Et aussi j'ai aimé le fait que à la fois c'est évident que c'est un film d'animation et quelque part il peut pas être autrement qu'un film d'animation, mais il a une histoire qui a toute sa place dans un film live. Et ça j'ai adoré. Et je pense que c'est une des choses qui me plaît dans l'animation, quand l'animation va t'apporter beaucoup de choses visuellement, beaucoup de choses dans la mise en scène, dans l'univers, mais que voilà, c'est pas juste des dragons, des forêts, des monstres. Et en fait, Perfect Blue, c'est un polar, quoi. C'est un polar dans un univers qui est dingue, qui est un peu les K-pop, le monde des K-pop, quoi. Et d'ailleurs, il y a un film, les J-pop, donc du Japon, ouais. Il y a un film qui est sorti récemment sur, ou qui va, non, je crois qu'il vient de sortir, sur le fait que les icônes de K-pop, de J-pop, elles n'ont pas le droit d'avoir des relations sentimentales, etc. Parce qu'en fait, tous les fans, ils veulent dans leur tête avoir la possibilité de se les approprier. Et donc, j'ai pas encore vu ce film, mais j'avais très envie de le voir sur le fait que ce sont des personnalités publiques et qu'elles n'ont pas le droit à une certaine vie privée. Et quelque part, ça croise un petit peu ce film de Satoshi Kon qui pourtant date des années 90, quoi. Donc j'ai vraiment vraiment trouvé ça super. Toi tu faisais un parallèle avec un cinéaste, donc je vais te laisser développer là-dessus, mais j'ai trouvé ça hyper juste et ouais, je trouve que c'est un film qui fait peur, un thriller horrifique en fait, hein, sombre, imaginatif, dans un univers passionnant. Toutes les personnes qui s'intéressent au monde du showbiz mériteraient de le regarder parce que ça résonne dans cet univers très fort et une très très belle découverte, un peu plus brouillon dans sa dernière partie, mais en fait j'ai pas de grudge contre le film. Parfois t'as des fins de film où les 30 dernières minutes du film ça veut plus rien dire, tu comprends plus rien et puis ça t'énerve. Moi j'accepte d'avoir été un peu baladé à la fin et je suis pas énervé contre Satoshi Kon. Paprika, un peu plus le bordel. Très beau, très riche, très libre, mais un peu résultat, quelque part, il m'en reste moins de choses, voire beaucoup moins de choses que Perfect Blue, dont je sais que, par exemple, que peut-être j'ai envie de me l'acheter, tu vois. Donc voilà, super découverte.
Ouais, bah, après Paprika, je pense que c'est plus on le voit, plus on peut l'apprécier aussi, parce que c'est, et puis surtout comme premier film à voir de Satoshi Kon, c'est peut-être un peu violent. Moi, je les ai fait dans l'ordre finalement. J'ai vu, j'ai commencé au cinéma avec Perfect Blue. Je l'avais vu parce qu'il y avait une ressortie ou je sais plus, quelque chose. En tout cas, je l'avais revu au cinéma. Et après, en fait, j'avais enchaîné avec Millennium Actress, Dogyo Godfather et Paprika. J'ai pas vu après les séries animées qu'il a fait. Mais par contre, en fait, on sent vraiment une patte d'auteur, quoi, puisque même entre Paprika et Perfect Blue, moi, je trouve qu'il y a une énorme résonance sur le montage, sur la question du temps, sur la question aussi... il y a une espèce d'inception, hein, dedans, c'est un peu... Tout est imbriqué, en fait. Les rêves s'imbriquent dans la réalité est un peu un rêve éveillé. Il y a quelque chose d'un peu bordélique, d'un peu fou, et en même temps, qui est très bien construit, et je trouve que Paprika, pour le coup, est quand même mieux construit que Perfect Blue, qui, justement, se perd un peu à la fin, tu te demandes à quel point c'est possible ou pas. Mais comme c'est un dessin animé, je pense que je mets... ma suspension d'incrédulité, et je suis plus relax avec ça, quoi. Je pense sincèrement que si ça avait été fait en live, je pense que j'aurais peut-être moins apprécié. Mais c'est, comme tu disais, c'est un film qui est fait pour être un dessin animé. Je pense que ça n'aurait pas pu être fait autrement. Et par contre, moi, j'y vois clairement... pour moi, c'est vraiment un film qu'aurait pu faire Fincher, quoi. Dans un très bon sens du terme. Et le Fincher des années 90-2000... alors, peut-être pas quelque chose de froid comme Zodiac, mais plus quelque chose d'un peu plus fou, comme peut-être Seven, par exemple. Cette espèce de polar des années 90, très noir, très lugubre, très dur... Et en même temps, où il y a une espèce de folie qui se dégage de ça. Et je trouve, sincèrement, même dans la colorimétrie, il y a des choses qui ressemblent. Et c'est un film, pour moi, qui est à la fois très intense et en même temps qui, en fait, comme tu disais, parle d'un univers que tu ne connais pas forcément, qui est l'univers donc, des idols. Hein, donc, c'est boys band ou girls band donc de J-pop. Bien sûr qu'il existe aussi en coréen, donc la fameuse K-pop, et où en fait, elles sont pieds et poings liés. C'est un peu, il y a un peu, tu sais, les actrices et les acteurs des années 30-40 qui étaient coincés dans les studios et qui devaient faire 20-50 films pour un même studio. Il y a un peu de ça, j'ai l'impression, là-bas. Et en fait, on découvre tout un univers qui est en même temps, très kawaii, hein, très girly, très mignon, et qui est en même temps ultra glauque. Avec des fans qui sont des espèces de stalkers qui suivent ses limites s'ils sont pas à la culotte, quoi. C'est redoutable, quoi, comme ambiance, en tout cas, que Satoshi Kon arrive à insuffler dans le film. Et en plus de ça, il y a quand même des séquences, justement, entre rêve et réalité, puisqu'en fait c'est une chanteuse qui devient actrice et l'actrice tourne dans un film et le film rejoint la réalité. Il y a tout comme une espèce de labyrinthe en fait mental qui commence à se faire dans le film et qui rend un peu fou quoi, je trouve, et qui rend vraiment complètement zinzin même.
Ouais, puis une forme de paranoïa qui s'établit, on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ça marche bien quoi. Et le film dont je parlais, c'est Love on Trial, sur ces personnes ces idoles de J-pop qui n'ont soudainement plus le droit à une vie privée, et que j'ai pas encore vu, hein, mais qui je trouve a une résonance avec ce film-là. Et pour le coup, on parlait de point de vue, c'est vrai que ces deux films d'animation, donc ce Satoshi Kon et le Batman, voilà, il y a chaque plan est réfléchi avec un regard et on comprend que la caméra il l'aurait pas mise ailleurs quoi, et ça c'est très fort, c'est la marque des très grands cinéastes. Voilà, ça manque un petit peu sur le dernier film de Spine of the Night. C'est clair que quand tu compares, alors après je sais que Satoshi Kon, il est, même si je connais pas l'animation, il est c'est un peu comme Miyazaki, etc. Il est vraiment porté au sommet par tout le monde, donc je peux pas comparer Orson Welles et des jeunes cinéastes qui commencent, mais quand même il y a un regard qui est très très fort, il y a un point de vue. Et puis en plus de ça, derrière il y a une ambiance, etc., qui rejoint, comme tu dis, Fincher, mais aussi dans le côté froid, moi je trouve, dans le côté aquarium, un peu rigide et dur quoi, et où essaye de s'épanouir cette jeune ex-J-pop chanteuse qui devient comédienne et qui se mange aussi. Il y a aussi un regard très très dur sur l'industrie du showbiz et de la télé en fait, enfin du cinéma et de la télé. Tout d'un coup, cette jeune fille, il faut qu'elle fasse des photos à poil pour réussir, etc. Elle tombe dans un engrenage qui la dépasse. Elle devient de la chair plus qu'un talent, quoi. Et ça, je trouve ça hyper, hyper juste et fort. On s'attache à ce personnage. Et le méchant fait flipper. En tout cas, un personnage en particulier fait vraiment flipper. Et pour un dessin animé, c'est rare, quoi.
Non, mais c'est vrai que la DA, elle est mortelle. Hein. Mais de toute façon, et en dehors de même du regard qu'il y a, en fait, sur le fond... En fait, c'est plutôt... Il y a un rapport, finalement, en tout cas, même... peut-être que je vais trop loin avec les films cités précédemment, mais en fait, là, il y a un rapport, en fait, même au fantasme, à la projection, qui est très, très fort dans ce film-là, où... Finalement, on va voir que donc entre les rêves, la réalité, la fiction, etc. En fait, bien sûr, ce sont des projections mentales en fait que se font les personnages dans Perfect Blue. Et on va voir que chaque personnage, en fait, Mima, qui est l'actrice chanteuse de J-pop, va en fait, elle se demande si elle va pas devenir folle. T'as les espèces de stalkers et les espèces de fans là, où en fait ils ont une projection, où en même temps ils ont l'impression de vivre leur vie avec elle, en même temps ils sont à moitié amoureux, en même temps ils la détestent, et en fait il y a comme ça des espèces de pulsions, des envies. Il y a l'impresario, la manager qui essaie de bien faire, mais qui en fait fait des projections aussi sur Mima en disant non, mais elle veut pas, en fait elle veut pas être actrice, elle veut être chanteuse, alors que Mima dit le contraire. Il y a comme ça, c'est un film qui parle de en fait littéralement, et on le voit d'ailleurs à l'écran, de projections, de la projection mentale, des projections physiques, de ces différents personnages qui en fait sont en même temps tous un peu paumés à leur manière, et en même temps ont tous une espèce de fantasme tous un peu Mima, ou alors le rôle qu'elle a à l'écran ou en tant que pop star quoi. Et ça, je trouve que le film est assez intéressant aussi là-dessus.
Et on lui empêche en fait, par exemple il y a beaucoup de fans qui lui en veulent parce qu'elle a quitté le monde de la chanson pour devenir comédienne. Enfin, il y a un côté actrice quoi, il y a un côté où on lui empêche de d'être qui elle veut être, et c'est fort, et je trouve que c'est aussi très oppressant ça.
Oui, complètement. Mais de toute façon, Satoshi Kon, vraiment là-dessus, je trouve que il a été extrêmement bon, et c'est rare de voir comme ça un aussi bon. En fait, c'est quasiment, c'est très personnel bien sûr, mais c'est quasiment un des meilleurs thrillers que j'ai vu. On va dire tout confondu quoi. Je trouve que Zodiac de Fincher est quand même une énorme réussite. Et je trouve sincèrement que Perfect Blue peut rentrer, par exemple, là-dedans. Je trouve que, malgré les quelques défauts qu'il peut y avoir, c'est, comment dire, c'est comme s'il fallait... Je sais que c'est un film qui est quand même assez culte, mais comme parfois, effectivement, le dessin animé a ce côté parfois pas très mature, on va dire, Perfect Blue, je pense, peut vous faire dire le contraire. En tout cas, j'ai l'impression que Thomas, ça a bien marché sur toi.
Carrément, vraiment, très 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 bon choix.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Mais alors là, nous avons un peu voyagé à travers le cinéma américain, le cinéma japonais. Toi Thomas, alors qu'est-ce que là, avec ces trois nouveaux films que tu peux mettre maintenant dans ta collection de dessins animés, quelle est maintenant ta vision du coup un peu de ces différents visionnages un peu?
Bah écoute, c'est des univers très très différents. C'est des rapports à la création animée quoi, très très différents, très variables. C'est vrai que tu comprends aussi les libertés que peut apporter si t'as les moyens, les libertés que peut apporter ce genre de traitement, c'est-à-dire d'aller dans un dessin animé, dans un animé, ça peut t'apporter aussi une forme de liberté qui est extraordinaire quoi. Après j'aime quand même et je pense que c'est ce que je retiens, parce que en dézoomant, ce que je préfère quand même, c'est Perfect Blue de très loin. J'ai beaucoup aimé le Batman aussi, mais bon voilà, Batman, il n'y a pas de surprise non plus, enfin c'est juste que ça danse un petit peu avec la nostalgie de mes années de mon enfance quoi, et donc ça marche très bien, c'est très intelligent, c'est plutôt adulte, etc. Mais vraiment, Perfect Blue, j'ai pris une claque. Et vraiment, je l'explique quand même parce que je trouve qu'il y a un pied dans une narration qui est une narration de cinéma live. Et vraiment, ça, j'en démords pas. Je trouve que quand tu apportes de l'animé sur une structure narrative qui pourrait exister dans un film live, ça devient hyper intéressant, en tout cas pour moi, parce que je m'attache avec des codes qui sont les codes du cinéma classique. Et puis, le dessin m'emmène ailleurs. Peut-être que ton challenge pour la prochaine fois, c'est de me faire découvrir d'autres dessins animés, peut-être plus proches de Paprika, où là vraiment on part dans des délires qui quelque part n'existeraient que en dessin animé. Mais voilà, moi j'aime cette espèce d'entre-deux et c'est ce que je retiens quoi. C'est ce que je retiens de ces trois films. Il y en a un vraiment qui va me travailler, tu vois, et qui va m'accompagner dans la vie de manière forte, et c'est ce film qui a un pied dans, qui est évidemment un grand film d'animation, mais qui a un orteil dans du cinéma live.
Et qu'est-ce qui fait que pour toi, par exemple, Spine of the Night, qui est littéralement du live qui a été mis en dessin animé, qu'est-ce qui ferait la différence du coup entre par exemple un Perfect Blue qui a une... Est-ce que c'est la maturité, en fait, qu'est-ce qui t'a... C'est la maturité de l'écriture. Qu'est-ce qui fait que t'as l'impression que ça c'est du live? Et ça, c'est du dessin animé. Parce qu'encore sur Batman et le fantôme masqué, je peux comprendre. Parce que c'est vrai que c'est ce qui se rapproche le plus d'une écriture un peu plus quand même enfantine. Et puis c'est plus court aussi, ça dure plus qu'une heure. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, entre un Perfect Blue et un Spine of the Night, quelle serait la différence dans la maturité de l'écriture peut-être, ou dans la mise en scène?
Je pense que clairement, c'est évidemment dans la maturité scénaristique, le fait qu'en fait dans Perfect Blue quand même il y a une trajectoire narrative qui est claire, évidente, enfin évidente dans l'écriture, elle l'est pas pour le spectateur, il se laisse surprendre, mais elle est écrite quand même de manière fluide quoi. Et dans In the Spine of the Night il y a quand même un vrai problème d'écriture et résultat, comme j'y capte rien, je me raccroche au fait que c'est de l'animation. Et je suis ok avec ça parce que l'animation permet ça, mais ce serait de la fiction, je serais énervé, tu vois, je serais en mode ouais bon là franchement ça veut rien dire, ils se foutent de la gueule du monde, voilà. Comme c'est de l'animation, je l'accepte et résultat, je passe quand même un bon moment. Mais Perfect Blue, pour moi, il est sur un fil, c'est 100% de l'animation, mais comme il y a une espèce d'écriture qui est aussi en, tu sais, elle est un peu en miroir avec vraiment des films qu'on connaît quoi. Je trouve que Perfect Blue, il est très fortement inspiré de beaucoup comment on pourrait dire, d'une culture cinématographique qu'on connaît, qui est tous ces grands polars des années, comme tu dis, 90, etc. Mais même, il y a, je sais pas s'il y a du, il y a un petit peu même de films noirs, mais en tout cas, il s'inscrit dans l'histoire des films de polar et de thriller, et donc il est rattaché à cette culture que je connais. Et en revanche, In the Spine of the Night, il est rattaché à une culture du dessin animé que je connais un petit peu aussi, parce que c'est mon enfance, les chevaliers, etc. Et donc je l'accepte, mais pour moi, si c'était un film, je serais énervé. Perfect Blue, si c'était un film, je pense que ça marcherait pas, parce que la fin marche, parce que c'est de l'animation. Mais l'histoire en soi fonctionnerait, et je serais ok, tu vois. Il suffit qu'il y ait un réalisateur un peu carré et je me laisserais porter. Le fait que ce soit de l'animation, ça l'emmène un cran au-dessus. Je sais pas si ça répond à ta question.
Si, complètement. Mais tu sais que normalement, Perfect Blue, je crois que c'était Darren Aronofsky qui devait le faire à une époque. Il avait rencontré Satoshi Kon et finalement, ça s'était pas fait. Mais c'est dans Requiem for a Dream où il y a même, tu peux voir ça, il y a des petits montages qui ont été faits sur Instagram et en tout cas sur Internet, où tu vois même des, on va dire entre guillemets, des hommages plan par plan. Dont je crois une scène où t'as Mima qui crie sous l'eau quand elle prend son bain, et t'as la même chose avec Jennifer Connelly par exemple. Et je crois que c'est un hommage vraiment direct en fait entre Darren Aronofsky et Satoshi Kon. Donc il y a quand même ça aussi, des liens entre ce réalisateur qui a aussi fait des films très très noirs, très très sombres, et en même temps très... Bah, enfin, Requiem for a Dream, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quand même des séquences aussi hallucinantes et hallucinatoires qui sont, il me semble, assez intéressantes. Mais donc je suis à peu près d'accord avec toi en tout cas là-dessus. Mais
c'est un scénario de Satoshi Kon ? Il devait faire le scénario de Satoshi Kon ? C'est-à-dire... Aronofsky devait adapter Perfect Blue, qui a été écrit par Satoshi Kon, c'est ça ? Oui, ou avant que le film d'animation existe, quoi ? Juste le scénario ?
Non, en fait, je crois qu'il devait remaker le dessin animé, parce qu'à la base, le dessin animé, c'est un roman. Satoshi Kon n'a jamais lu le roman, il a lu le scénario, il a dit, en fait, je veux bien faire le scénario si je retransforme tout. Donc en fait, il a fait, parce qu'il n'aimait pas les J-pop, il n'aimait pas tout ça, donc il a fait... je me débarrasse. Après, il avait bien sûr des points clés à faire, il était obligé. Mais en gros, il a pris le scénario, il a fait « vas-y, j'en fais ce que je veux ». Et après, je crois en tout cas, si ce que je dis est correct, Aronofsky est arrivé après pour essayer de le faire, et finalement, ça ne s'est pas fait. Popcorn et Banjo, la 22e, c'est terminé. Le mois prochain, nous parlerons film de vidéoclub, un sujet qui nous est cher avec Thomas. On vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut.
Salut.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.